Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand les fraudeurs volent les locataires en toute impunité. Un texte de Jeanne Corriveau et Zachary Goudreau, paru le 28 février 2024 dans Le Devoir. Des fraudeurs s'en prennent régulièrement à des locataires à la recherche d'un logement abordable au Québec en leur soutirant des sommes importantes ou encore en volant leur identité. Plongeons au cœur des stratagèmes utilisés par certains de ces fraudeurs, qui agissent souvent en toute impunité, les corps policiers ne leur accordant que peu d'attention de l'avis d'experts. Que ce soit sur Facebook, sur Kijiji ou sur d'autres plateformes, les annonces frauduleuses de logements alloués pour un prix alléchant foisonnent sur le net. Afin de mieux comprendre le fonctionnement des fraudeurs derrière celles-ci, les représentants du Devoir ont joint certains d'entre eux en prétendant être intéressés par les appartements qu'ils offrent en location, même s'ils n'en sont pas réellement les propriétaires. C'est ainsi que nous sommes entrés en contact avec un certain Michel Morin, un nom d'emprunt, selon toute vraisemblance, qui a rapidement donné suite à notre courriel lorsque nous lui avons demandé s'il avait toujours un logement vacant à Montréal. Celui-ci nous a alors proposé de visiter un bel appartement, moderne et spacieux, offert à 1 050 $ par mois et situé sur l'avenue Christophe-Colomb, à proximité de la station de métro Jean-Talon. Affirmant demeurer à Sherbrooke, l'individu qui nous donne une carte de visite sur laquelle il se présente comme directeur de l'agence immobilière Immovilea, nous demande toutefois de faire un dépôt par virement bancaire de 50 $ avant le moment de la visite du logement, somme qui serait remboursée automatiquement au terme de celle-ci. Lorsqu'on lui fait part de notre crainte de ne jamais revoir la couleur de cet argent, celui-ci dit comprendre parfaitement notre doute. Cependant, il n'y a rien à craindre, assure-t-il. Je suis catholique, père de 2 enfants, et ma religion ne m'autorise pas à niaiser ni à frauder, écrit-il dans un échange de courriel. Des visites imprévues. Le hic, c'est que le bâtiment de 3 étages et de 32 logements, se trouvant à l'adresse fournie, appartient plutôt à l'entrepreneur Alain Mignot. En entrevue le mardi 27 février, ce dernier a raconté qu'une personne s'était présentée à son immeuble la semaine dernière en indiquant avoir payé 50 $ en amont de la visite d'un logement, laquelle n'a jamais eu lieu. Le fraudeur a récidivé cette semaine en incitant une autre personne à se présenter sur les lieux après avoir déboursé la même somme. On ne peut rien faire, sinon de dire poliment à la personne qui attend à notre porte qu'elle s'est fait avoir, dit en soupirant M. Mignot, qui constate que ses recours sont limités, les fraudeurs pouvant utiliser l'adresse de ses logements et des photos de ceux-ci à leur guise. L'agence Immovilea, qui ne compte aucun employé nommé Michel Morin, a pour sa part dû répondre dans les derniers jours à plusieurs courriels de personnes ayant été visées par cet arnaqueur tentant de leur soutirer des fonds. J'ai l'impression que ce monde-là ne se fera jamais attraper. C'est fâchant, s'indigne Patrick Lavigne, qui est partenaire de l'entreprise de gestion immobilière Optimo, qui offre notamment ses services à Immovilea. Un autre fraudeur, qui s'est présenté sous le nom de Drouin Curtis, nous a proposé un bel appartement situé sur l'avenue de l'Hôtel de Ville. La personne derrière cette fraude, qui prétend être propriétaire de ce logement offert à 1 200 $ par mois, réclame le virement d'une somme équivalente à la moitié du loyer avant le moment de la visite. Pour confirmer qu'elle est bien la propriétaire du logement, ce qui n'est pas le cas selon le rôle foncier de la ville, la personne en question affirme être une dame de 39 ans travaillant à la mine Raglan, dans le nord du Québec, comme lave-vaisselle. À la suite du refus du Devoir de lui transmettre la somme d'argent réclamée, le fraudeur a supprimé son compte Facebook. Le Devoir a documenté plusieurs autres cas de fraude potentielle s'appuyant sur des stratagèmes similaires, qui mettent en scène un propriétaire habitant à l'étranger et dont le fils habite dans une ville québécoise à des centaines de kilomètres du logement annoncé. Avant de demander à son fils de se déplacer pour faire visiter le logement, on réclame à la personne souhaitant visiter un acompte. Les photos présentées pour un logement supposément situées sur l'avenue Jeanne d'Arc dans Rosemont-la-Petite-Patrie, sont celles d'une maison mise en vente à Sainte-Marie-en-Beauce. Dans un autre cas, le fraudeur donne l'adresse des bureaux de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour le logement proposé. Une annonce affiche même un appartement mis en location à Saint-Étienne, en France, en prétendant qu'il est situé au centre-ville de Montréal. Vous écoutez « Quand les fraudeurs volent les locataires en toute impunité », un texte de Jeanne Corriveau et Zacharie Goudreau, paru le 28 février 2024 dans Le Devoir. Peu de plaintes. C'est la folie furieuse, lance l'organisateur communautaire Gaëtan Roberge du comité logement Ville-Marie, qui constate que les fraudes locatives font des ravages dans un contexte de pénurie de logements abordables. Les gens veulent tellement un logement qu'ils vont se faire arnaquer plus facilement, déplore M. Roberge, qui constate qu'en plus de se faire soutirer des sommes importantes, des gens se font également voler leur identité par des fraudeurs qui leur demandent plusieurs informations personnelles. À l'échelle du pays, le Centre antifraude du Canada indique avoir reçu 688 signalements l'an dernier pour des fraudes locatives totalisant quelque 832 000 $. De cette somme, près de 40 000 $ concernent des fraudes commises au Québec. Ce n'est toutefois qu'une mince partie des arnaques qui sont dénoncées aux autorités, relève le professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, Benoît Dupont, qui constate par ailleurs que les policiers accordent peu d'attention à ce type de fraude. Ce n'est pas la priorité numéro un des services de police. Il y a aussi le fait que plusieurs de ces fraudeurs ne sont pas au Québec, ce qui rend les enquêtes plus compliquées à mener, ajoute M. Dupont. Comme vous le savez, les policiers sont débordés de rapports à ce sujet. Donc, si on leur envoie trop de dossiers, ils ne pourront rien faire, laisse pour sa part tomber Ken Sixtrom, responsable des relations avec la communauté de Kijiji. Dans ce contexte, l'entreprise mise sur l'intelligence artificielle pour tenter de déceler les annonces frauduleuses qui sont publiées sur la plateforme, afin de bannir ensuite les individus derrière celle-ci. Joint par Le Devoir, le service de police de la Ville de Montréal assure prendre au sérieux les fraudes liées à la location d'un logement. Chaque signalement est pris en charge rapidement, affirme le corps de police, qui n'a toutefois pas donné suite à notre demande d'entrevue pour faire le point sur les moyens concrets que prennent ces enquêteurs pour dénicher les fraudeurs derrière ces arnaques. Les fraudeurs profitent des dépôts automatiques. Une des méthodes utilisées par les fraudeurs pour soutirer de l'argent à de potentiels locataires consiste à réclamer un acompte par virement Interac. Certains insistent alors pour dire que le paiement sera encaissé seulement lors de la visite du logement convoité, au moment où le locataire dévoilera la réponse de sécurité. Or, il existe une astuce permettant au destinataire de toucher l'argent sans connaître la réponse de sécurité. Si le fraudeur a activé l'option « dépôt automatique », l'argent est aussitôt déposé dans son compte et la victime n'en reverra jamais la couleur. La fonction « dépôt automatique » simplifie la gestion des paiements pour certaines organisations, mais entre particuliers, elle peut devenir un piège. Ce stratagème, utilisé par les fraudeurs, est méconnu du public, reconnaît l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse. Il revient à Interac et aux institutions bancaires de faire cette sensibilisation-là. Ils sont négligents, selon moi. Ils offrent un service et demandent aux clients de figurer eux-mêmes comment ça marche. Steve Waterhouse avance que si les institutions financières font peu de cas de ces fraudes, c'est qu'elles en jugent le nombre limité comparativement au nombre élevé de transactions qui sont effectuées chaque semaine. Mais pour chaque individu qui perd 1 000 c'est gros. Questionnée à ce sujet, l'Association des banquiers canadiens a dirigé Le Devoir vers l'entreprise Interac. Si le destinataire d'un virement Interac a activé le dépôt automatique, les institutions financières sont tenues d'informer l'expéditeur qu'il n'est pas nécessaire de poser une question de sécurité pour la transaction, indique dans un courriel Fiona Bang du service des communications d'Interac. Elle insiste sur l'importance pour l'expéditeur de faire des virements à des personnes de confiance dont l'identité a été validée par d'autres moyens. Les institutions bancaires remboursent-elles les clients victimes de fraude par virement Interac? L'Association des banquiers canadiens nous a indiqué de communiquer avec Interac, qui nous précise que les clients doivent contacter leur institution financière. C'était « Quand les fraudeurs volent les locataires en toute impunité », un texte de Jeanne Corriveau et Zachary Goudreau, paru le 28 février 2024 dans Le Devoir.
Les Mexicains ont-ils des raisons de demander l'asile au Canada? Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 1er mars 2024 dans Le Devoir. Depuis 2016, plus de 7000 demandes d'asile de Mexicains ont été acceptées par le Canada. Parmi tous les demandeurs originaires de ce pays, une proportion de plus en plus grande a en fait reçu le statut de réfugié. C'est maintenant pour ceux-là que s'inquiètent experts, avocats en immigration et groupes communautaires. Ottawa a confirmé jeudi matin que les visas de visiteurs seront imposés en général aux Mexicains, notamment à ceux qui n'ont pas voyagé au Canada dans les 10 dernières années ou qui ne détiennent pas de visa américain. Depuis la levée de cette obligation en 2016, le nombre de demandeurs d'asile a considérablement augmenté, ce qui a fait monter la pression sur le fédéral pour réinstaurer ce visa. En revanche, leur taux d'acceptation a grimpé de 25 à 41 % entre 2017 et 2023, gagnant 16 points de pourcentage en 6 ans. L'an dernier, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, CISR, a en fait accepté plus de demandes d'asile, 2894, qu'elle en a refusé, 2424. Les nombres mentionnés par le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, ainsi que dans un communiqué de son ministère, incluent en fait les désistements et les retraits de demandes. Violence. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs motifs légitimes pour les Mexicains de demander l'asile, constate Stephen Reichhold, directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Violence des cartels, violence conjugale ou basée sur le genre, persécution des membres de la communauté LGBTQ+. Il y a beaucoup d'exemples qui donnent lieu à des acceptations au statut de réfugié. Note aussi Stéphanie Valois, coprésidente de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, AQAADI. Qu'est-ce qui va arriver avec ces personnes-là? Demande M. Reichhold, se disant inquiet. Les demandeurs avec des motifs considérés légitimes au sens de la loi par la CISR n'ont pas nécessairement le profil pour obtenir un visa de visiteur, concède-t-il aussi. L'exigence de visa risque de toucher plus durement ceux qui ont vraiment besoin de sortir de la vie d'Adèle Garnier, professeure au département de géographie de l'Université Laval. Ils sont parmi les plus vulnérables, qui seront encore plus vulnérabilisés. Obtenir un visa de visiteur peut prendre plusieurs mois. Ces importants délais constituent donc un danger pour les personnes vraiment à risque, souligne-t-elle. Pour le décrocher, il faut notamment démontrer avoir suffisamment d'argent et convaincre un agent d'immigration qu'on retournera dans notre pays après le séjour. Maître Valois représentent notamment des personnes trans qui ont demandé l'asile au Canada. Elles n'ont souvent plus de travail là-bas et sont dans des situations super précaires. Comment vont-elles pouvoir démontrer qu'elles vont retourner au Mexique? Un système solide. L'octroi du statut de réfugié après une demande d'asile est un système solide, dit Mme Garnier. Je comprends l'argument du gouvernement au vu des chiffres, dit Maître Valois. Mais en même temps, la définition de réfugié est extrêmement stricte. Dans le cas des Mexicains, il n'est pas rare qu'un commissaire de la CISR affirme croire un demandeur, mais qu'il pense qu'il y aurait une solution ailleurs dans une autre région du pays, affirme l'avocate. En d'autres mots, un commissaire peut être convaincu qu'une demande est fondée et que les preuves sont suffisantes, mais il rejette la demande en raison de l'existence d'une possibilité de refuge intérieur dans le pays. Les commissaires de la CISR utilisent des cartables de documentation pour appuyer leur évaluation, contenant notamment des apports des plus grandes organisations de défense des droits de la personne et de certaines instances américaines. Le département d'État américain notait ainsi en 2022 que des problèmes significatifs au Mexique inclut des assassinats arbitraires et illégaux par la police, des disparitions forcées opérées par des agents du gouvernement, de la torture aux mains des forces de sécurité et une impunité généralisée. L'idée que les voyageurs canadiens se font du Mexique est souvent loin de la réalité, ajoute-t-elle, même si des endroits comme Tulum affiche maintenant une importante présence policière et militaire. Un couple gay de touristes ne se fera pas déranger ou encore ne sera pas la cible des cartels, mais c'est une toute autre histoire pour les Mexicains eux-mêmes, donne-t-elle comme exemple. La baisse du nombre de demandes d'asile de la part des Mexicains, si elle s'avère, pourrait être de courte durée, selon M. Reichhold. Chaque fois qu'on ferme un accès, il y en a trois autres qui surgissent. Les gens trouvent des voies de contournement parce que ça ne règle pas les problèmes dans les pays d'origine. Quant à certaines personnes refusées, ce sont quand même des gens qui cherchent à bouger et ils ne trouvent pas d'autre manière de le faire que comme ça, constate Mme Garnier. Et cet appel d'air du marché du travail au Canada ne s'est pas encore apaisé. C'était « Les Mexicains ont-ils des raisons de demander l'asile au Canada? » Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 1er mars 2024 dans Le Devoir.
Développer une production hybride des réservoirs hydro-québécois. Un texte de Louis-Gilles Francoeur, paru le 26 février 2024 dans Le Devoir. La récente entente entre Hydro-Québec et des Inuits de la Côte-Nord pourrait ouvrir la porte à de nouveaux projets hydroélectriques et éoliens, ce qui ajouterait au désenclavement de milieux naturels vierges avec son cortège d'atteintes à la biodiversité, pourtant si importante pour la survie de la culture autochtone. Il serait pourtant possible de laisser ces territoires en paix, y compris aussi des paysages de grande valeur du Québec habité et plusieurs milieux agricoles actuellement visés par les promoteurs éoliens, tout en augmentant la production d'électricité, en énergie et en puissance, si on la concentrait dans les milieux déjà artificialisés en grande partie que sont les grands réservoirs d'Hydro-Québec par le biais d'une production hybride qui intégrerait dans le même territoire les énergies éoliennes et hydrauliques. Si notre production d'hydroélectricité s'avère particulièrement intéressante dans la lutte contre les changements climatiques, mais au prix d'importantes atteintes à la biodiversité, une future production hybride d'électricité pourrait davantage protéger la biodiversité en épargnant de nouvelles empreintes humaines majeures aux cours d'eau, aux milieux naturels et habités du Québec. Lorsque notre première société d'État a construit ses grands réservoirs, elle a créé non pas une, mais deux sources d'énergie. Si le Québec exploite fort bien la puissance de la force hydraulique, notre première société d'État a jusqu'ici complètement ignoré le fait que les grandes surfaces d'eau de ces réservoirs sont d'exceptionnels puits d'énergie éolienne, comparables à ceux qu'exploitent en mer ou en milieu maritime plusieurs pays en raison de la puissance et de la constance exceptionnelle des vents qui s'y développent. Dans leur livre « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique », paru aux éditions Multimonde en 2009, deux éminents spécialistes, Réal Reed et Bernard Saunier, établissent à plus de 900 TWh l'énergie éolienne qu'on peut présentement stocker dans les réservoirs actuels d'Hydro-Québec, soit 9 fois plus que les 100 TWh dont Québec prétend avoir besoin dans la prochaine décennie pour satisfaire l'appétit des voitures électriques, de la filière des batteries et d'autres projets industriels. Optimisation des énergies éoliennes et hydrauliques. En réalité, le Québec pourrait probablement se passer pour au moins une génération d'aménager de nouveaux cours d'eau, petits et grands, ainsi que de désenclaver et développer de nouveaux parcs éoliens dans des milieux naturels vierges ou habités, s'il mettait en place un plan d'intégration et d'optimisation des énergies éoliennes et hydrauliques autour et dans ces réservoirs hydroélectriques actuels, concentrant à la fois les impacts et les bénéfices de cette production dans des milieux déjà artificialisés et peu habités. Hydro-Québec a déjà expérimenté avec succès sur le plan économique et énergétique une formule apparentée, soit le détournement de rivières non aménagées vers des bassins déjà aménagés. On pense ici, par exemple, au détournement de l'East Main vers les turbines de la Grande. Par contre, sur le plan environnemental, le succès était moins reluisant puisque cela atrophiait radicalement les rivières détournées et segmentait, sans mitigation importante, des milieux naturels avec les canaux de dérivation. Quant au stockage de l'éolien dans les barrages, c'est déjà une réalité technologique et économique chez Hydro-Québec, au profit des promoteurs privés, qui bénéficient ainsi de l'équilibrage réglementé de leur production. Dans tous ces grands réservoirs, le vent se concentre à 70 ou à 75% généralement sur une rive en particulier, la plupart du temps celle située dans l'axe ouest-est des vents dominants. Les sommets des montagnes ainsi placés sous ces vents dominants sont des puits éoliens de haute qualité en raison de la compression des vents de basse et haute altitude. La rive de ces mêmes secteurs a des qualités presque aussi importantes, ainsi que la berge, dans laquelle on peut installer d'autres éoliennes jusqu'à une certaine profondeur de l'eau. De plus, de nombreux réservoirs hydro-québécois sont remplis d'îles, lesquelles sont en réalité les sommets de montagnes immergées. Ces îles ont, elles aussi, un important potentiel éolien, tout comme les sommets ennoyés d'autres montagnes qui effleurent souvent la surface et qui, une fois émergées, pourraient accueillir aussi des éoliennes construites au sec et à meilleur coût que la construction en mer lorsque la société d'État devra, de toute façon, abaisser le niveau de ses réservoirs pour moderniser tour à tour les turbines de ses plus vieilles centrales. L'arrivée prochaine d'éoliennes de 8 MW, voire de 10 MW et plus, qu'annoncent les grands turbiniers internationaux, aurait beaucoup moins d'impact visuel et sonore sur ces îles ou autour des grands réservoirs que si on entreprend de les installer dans des milieux périurbains ou agricoles. Mais la productivité de ces méga-éoliennes serait très intéressante en énergie et en puissance dans et autour des réservoirs hydro-québécois d'autant plus que le transport sur eau de ces énormes équipements serait facilité d'autant. Il faudrait quand même réaliser des études sur l'impact potentiel des infrasons de ces méga-machines sur les espèces aquatiques et sur la gestion des niveaux d'eau dans les rivières qui hériteraient de volumes d'eau supérieurs en raison de possibles surproductions d'électricité. Une gestion hybride. Mais un fait demeure. Toutes les technologies existent pour transporter sur les réservoirs l'équipement et les matériaux de construction nécessaires, tout comme les centrales existantes pourraient traiter avec les équipements en place cette énergie avant de l'acheminer vers les utilisateurs. Certes, de grands apports éoliens modifieraient la gestion des réservoirs, calibrés initialement en fonction de la pluviométrie locale. Il faudrait alors soit augmenter le facteur d'utilisation des centrales en raison des apports supplémentaires de l'éolien, soit, si ces apports devenaient trop importants, penser à augmenter le nombre de turbines des centrales existantes lors de leur modernisation, ce qu'Hydro-Québec a déjà fait après avoir dérivé des cours d'eau de bassins versants voisins. Multiplier le nombre de turbines sur des cours d'eau déjà artificialisés aurait certainement moins de conséquences négatives pour la biodiversité et plus de conséquences positives sur les profits d'Hydro-Québec que de construire de nouveaux barrages et turbines sur des cours d'eau vierges. Tout comme il deviendrait possible de transporter avec moins d'impact cette énergie additionnelle dans les corridors électriques existants, quitte à les élargir plutôt que d'en créer de nouveaux. Et au total, en optimisant l'utilisation hybride de ces réservoirs, Hydro-Québec, le gouvernement et la population toucheraient la rente de cette production de nos ressources collectives au lieu de la laisser filer dans les poches de riches promoteurs privés. On doit à Hydro-Québec l'invention des lignes à 750 kV pour optimiser le transport de grandes puissances sur de longues distances. Les ingénieurs d'Hydro-Québec sont, et de loin, capables de mettre au point un système de gestion hybride innovateur de nos grands réservoirs, une formule qui pourrait faire des petits à l'échelle internationale au moment où le réchauffement du climat a commencé à mettre les producteurs d'hydroélectricité face à des baisses de niveau sans précédent, y compris Hydro-Québec. C'était « Développer une production hybride des réservoirs hydro-québécois », un texte de Louis-Gilles Francoeur paru le 26 février 2024 dans Le Devoir.